Dans notre étude précédente, nous avons répondu à la double question d'une auditrice. Il s'agissait d'expliquer un texte de l'évangile de Jean au chapitre 6 et un second passage tiré de la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, lequel est une description de la célébration de la Sainte Cène. Nous avons vu que malgré une certaine analogie de mots, ces deux textes ne font pas tous deux allusion à la Sainte Cène. Nous verrons aujourd'hui qu'ils constituent cependant deux annonces différentes d'un même fait, c'est-à-dire la croix. C'est en elle qu'ils se rejoignent. Comme nous l'avons annoncé, voyons quelle est la signification et la portée de la Sainte Cène. Pour mener à bien cette enquête biblique, il faut revenir en arrière jusqu'en Égypte. Les enfants d'Israël sont esclaves de ce pays. Ce sera l'avènement de Moïse, le libérateur. Nous sommes à la veille du départ, à la veille de la délivrance. La dixième plaie va s'abattre sur le pays. C'est alors que chaque famille chez les Hébreux reçoit l'ordre solennel d'immoler un agneau dans la nuit mémorable de leur départ. L'Éternel avait spécifié « On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez pour une fête en l'honneur de l'Éternel. » Ce texte tiré du livre de l'Exode dans l'Ancien Testament nous apprend quelle est l'origine et la signification de la Pâque juive. Le mot « Pâque » signifie « passage ». Moïse avait recommandé au peuple, lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Depuis ce jour-là, les Hébreux ont toujours célébré cette Pâque, ce passage de l'Éternel au-dessus de l'Égypte. C'était pour eux l'anniversaire d'une grande délivrance. Mais ce que les Hébreux ne savaient pas à cette époque, c'est que cet événement qu'ils célébraient n'était que la préfiguration, l'annonce, la prophétie d'une délivrance plus grande encore, qui devait se manifester plusieurs siècles plus tard. Lorsque Jean-Baptiste parut, il annonça que le temps de l'accomplissement de cette prophétie était arrivé. En effet, voyant Jésus venir à lui, il s'exclama « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » En entendant cette phrase, comment ne pas penser immédiatement à l'agneau de la Pâque? Jean-Baptiste vient de nous montrer d'emblée que la vraie captivité n'est pas celle de l'Égypte. Elle est pire. Elle se nomme le péché. C'est pour nous délivrer de ce mal que l'agneau de Dieu sera sacrifié. Nous nous apercevons dans l'Évangile que la mort du Christ coïncide avec la Pâque des Juifs. En effet, Jésus avait demandé à ses disciples de faire les préparatifs de la fête, car il désirait vivement la célébrer avec eux avant de souffrir. Le soir venu, il se trouvait à table avec les 12. Il est probable qu'ils se mirent d'abord à manger des herbes amères, qui étaient consciencieusement mâchées, en souvenir de l'amertume des années de captivité. Pendant le repas pascal, chaque chef de famille rompt le pain après avoir prononcé la bénédiction. Jésus va procéder de la même manière, comme il l'a fait bien souvent. Mais cette fois, avec ce geste, il prononcera des mots que les apôtres n'ont jamais entendus et qui sont le sujet même de notre étude. Voici d'ailleurs le récit biblique de cette célébration, tel qu'il figure dans le chapitre 26 de l'Évangile selon Matthieu, dans la Bible dite de Jérusalem. Or, tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis prenant la coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Quelle fut dans cette circonstance l'intention réelle de Jésus? comment pouvons-nous comprendre les paroles « Ceci est mon corps » ? Jésus vient-il de prononcer des paroles miraculeuses qui ont instantanément changé ce pain en la substance de son corps et le vin en son sang ? De nouveau, nous faisons appel à l'objectivité du lecteur de la Bible. Il ne s'agit pas de considérer ce texte à la lumière de ce qui nous a été enseigné. Il faut le prendre et l'accepter tel qu'il figure dans l'Évangile, comme si nous le lisions pour la première fois, sans jamais en avoir entendu parler auparavant. Le Nouveau Testament contient 4 récits de l'institution de la Sainte Cène. L'un se trouve dans l'Évangile de Matthieu que nous venons de lire. Les 3 autres se trouvent dans le chapitre 14 de Marc, le chapitre 22 de Luc et dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 11. La lecture de ces 4 récits ne permet pas de déduire que leur point culminant se trouve dans une transformation miraculeuse du pain et du vin. Tout ce que ces textes autorisent, c'est de constater que Jésus annonce sa mort prochaine, l'offrande de son corps pour le monde, et qu'il institue un mode de célébration de sa mort et de son prochain retour. De même que les Juifs, par le repas pascal, se souvenaient de leur délivrance d'Égypte, de même les disciples du Christ se souviennent par ce repas de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus n'avait-il pas dit « Faites ceci en mémoire de moi » ? Cette première fête était la Pâque des Juifs. Jésus est désormais la vraie Pâque des hommes. On a oublié que dans l'Église primitive, la Pâque ne se célébrait pas une fois par an, mais chaque semaine. Cette commémoration est désignée de plusieurs manières dans la Bible. Le mot « cène » que nous avons déjà vu, selon sa double origine grecque et latine, signifie « souper en commun ». La cène est aussi appelée « le repas du Seigneur » par l'apôtre Paul. Le mot « eucharistie » est dérivé du grec « eucharistia », qui signifie « action de grâce », car le Seigneur rompit le pain après avoir rendu grâce ou prononcé la bénédiction. Cependant, dans le Nouveau Testament, ce mot ne sert pas à désigner le repas du Seigneur. Par contre, l'expression « rompre le pain » ou « fraction du pain » est une allusion à la célébration de la cène. Nous trouvons ces expressions plus particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres. La lecture de l'Épître aux Corinthiens nous éclaire sur l'attitude des premiers chrétiens à l'égard de la Sainte Cène. Ils n'avaient vraisemblablement reçu aucune indication concernant une transformation miraculeuse des éléments de la Cène, car ils se réunissaient pour prendre un repas ensemble, un repas de communion dans un même souvenir. Malheureusement, ce repas commémoratif prenait chez les Corinthiens la forme alarmante d'un véritable banquet. C'est ce qui provoquera un sévère rappel à l'ordre rédigé par l'apôtre Paul. Il leur rappellera que toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est précisément ce en quoi les Corinthiens étaient coupables. Ils se réunissaient non pour se souvenir de ce que le Seigneur avait fait pour eux, mais pour bien manger et bien boire. C'était abominable. Le pain et le vin n'étaient plus des symboles, mais les éléments copieux d'un véritable banquet. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste sur la nécessité d'une préparation spirituelle préalable et d'une méditation qui aide le disciple à discerner à travers le pain et le vin le corps sur la croix et le sang purificateur. À l'époque où Paul écrivit cette lettre, 30 années à peine le séparaient de la mort du Christ. Dans ces phrases, on cherche en vain des allusions à la transformation miraculeuse du pain et du vin. Il s'agit plutôt de manger le pain et boire la coupe en souvenir du Seigneur. La doctrine à laquelle nous faisons allusion ne fera sa première apparition que 8 siècles plus tard. On a évidemment frénétiquement souligné cette déclaration du Christ « Ceci est mon corps », comme si sa forme était exceptionnelle dans la bouche du Maître. N'a-t-il pas dit « Je suis le vrai cep » ? Va-t-on pour cela lui découvrir la forme d'un cep de vigne ? N'a-t-il pas dit « Je suis la porte » ? Au nom de ce « Je suis », va-t-on l'envisager sous l'aspect littéral d'une porte ? Moïse a d'ailleurs utilisé la même formule lorsqu'il dit de l'agneau pascal « c'est la Pâque de l'Éternel. Littéralement, ceci est le passage de l'Éternel au-dessus. Or, il est évident que l'agneau ne pouvait que rappeler ce passage impressionnant de Dieu au-dessus de l'Égypte et la façon dont il les avait épargnés. Or, lorsque Jésus dit « Ceci est mon corps », pourquoi certains hommes s'acharnent-ils à donner à ces mots un sens littéral? Pourquoi s'obstinent-ils à voir ce pain se transformer soudain en chair véritable? Cette théorie aboutit d'ailleurs logiquement à cette conclusion, aussi irrecevable que choquante, que Jésus a lui-même mangé son propre corps et bu son propre sang. Toutefois, ce serait singulièrement amoindrir la signification de la scène que d'y voir sans plus la préfiguration ou le mémorial de la mort de Jésus sur la croix. Il ne faut jamais séparer du souvenir de cette mort la pensée de l'immense bienfait qui en est résulté pour les croyants de tous les temps. D'après le Nouveau Testament, le sacrifice du Fils de Dieu a été la condition et restera à tout jamais le gage de la rémission des péchés et du salut apporté aux pécheurs, comme le sang répandu au moment de la Pâque et au pied du Sinaï était pour Israël le gage du bon vouloir de l'Éternel à son égard, la garantie de l'alliance qu'il avait conclue avec son peuple. L'apôtre Paul parle d'ailleurs de la communion avec le sang et avec le corps du Christ, de celui qui boit la coupe et qui mange le pain. Le croyant se sait bénéficiaire de l'œuvre accomplie par le Christ sur la croix. Il l'accepte, il se souvient, il se souviendra jusqu'à ce qu'il vienne. Il est reconnaissant. Il mange le pain et boit la coupe, non pas pour être sauvé, mais parce qu'il a connaissance de son salut en Jésus-Christ. À ce point, il nous faut faire plusieurs remarques supplémentaires qui nous conduiront à la conclusion de ces deux études consécutives. Tout d'abord, malgré le manque de détails précis sur la manière de célébrer la scène, nous pouvons affirmer, d'après les textes que nous avons relevés, que tous les disciples peuvent et doivent participer au pain et à la coupe. Jésus a dit « Prenez, mangez » et « Buvez-en tous ». Ensuite, Jésus n'a pas établi de ministres spéciaux, habilités à officier à la célébration de la scène d'une manière particulière. Il s'agit d'un repas pris en commun, un repas de communion fraternelle dans un même souvenir, où chacun mange un peu de pain et boit de la coupe en mémoire du corps et du sang de Christ. Il faut enfin ajouter que les textes bibliques ne disent pas ni n'impliquent que la scène est un véritable sacrifice où se répète la mort du Christ à chaque célébration. De nombreux textes bibliques déclarent avec force que, contrairement au sacrifice de l'Ancien Testament, qui devait être constamment répété, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis